La dette française n'est pas un problème.
Faux.
La France va mal.
L'État français va mal.
On devrait avoir plus d'entrepreneurs au pouvoir.
Non. Gérer un pays, ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise ou la créer. Il faut se débarrasser de notre classe politique, mais pas au profit d'une classe entrepreneuriale. Il faudrait s'en débarrasser au profit du peuple, c'est-à-dire aller vers le référendum d'initiative populaire. Charles Gave, dans la finance depuis 50 ans. Depuis 50 ans, j'essaye de comprendre pourquoi ça monte et ça baisse. Chaque fois que je crois que j'ai compris, ben j'ai pas compris. Mais c'est un métier extrêmement intéressant parce que il a été créé pour que le maximum de gens se sentent le plus malheureux le plus longtemps possible et avoir l'air idiot le plus souvent.
La France doit sortir de l'Union européenne.
Oui. De cette Union européenne, qui n'est pas une Union européenne, qui est une dérive technocratique qu'on aurait dû éviter.
L'Asie, c'est le futur.
C'était le futur il y a 20 ans. Maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sera l'océan Indien.
Aujourd'hui, le travail permet de survivre.
Le travail salarié, oui.
Je suis fier d'être français.
Tout à fait.
Tout est économique.
Faux. Il y a des tas de sujets qui ne sont pas économiques. Vous avez des valeurs extrêmement importantes qui ne sont pas des valeurs de marché.
La France aurait dû investir dans le Bitcoin.
Sûrement pas. C'est pas son boulot. Son boulot, c'est de nous faire une monnaie qui tienne la route, pas de dire « je suis incapable de faire une bonne monnaie, donc je vais acheter du Bitcoin ». Et le Bitcoin, ça n'a un avantage que parce que les États ne peuvent pas intervenir. Si les États interviennent dans le Bitcoin, ça cesse d'être intéressant, il faut le vendre.
Il faut investir dans les énergies fossiles.
Bien sûr, il n'y en a pas d'autres. Si, enfin, il y a l'énergie nucléaire, mais ça prend 10 ans.
Le programme économique du nouveau Front Populaire est réaliste.
Si vous le dites.
Le programme économique du Rassemblement National est réaliste.
Même remarque. Je savais pas qu'il connaissait quelque chose en économie.
Le problème, ce sont les riches.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de riches. Il y a beaucoup trop de pauvres.
L'immigration est une chance pour l'économie.
Je sais pas, si vous exportez des bacs plus 7 et que vous importez des bacs moins 7, je ne crois pas que l'économie va s'en porter bien. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc non, c'est pas une chance. C'est ce qu'on a, les gens qu'on importe ne sont pas des gens qui sont intéressants pour l'économie. Puisqu'on passe dans une économie de la connaissance et que les pauvres vieux, ils ne savent rien.
On doit passer à une 6e République.
C'est la mauvaise question, parce que la bonne question, c'est est-ce que la démocratie représentative est foutue? Et la réponse est oui. Donc, par quoi faut-il repenser la démocratie représentative? Par le souverain, c'est-à-dire que le souverain soit appelé à voter, surtout comme en Suisse. Et ça peut être fait dans le cadre de la constitution de la 5e. On n'a pas besoin de changer, puisque le référendum est prévu.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien avec Charles Gave. J'ai pu échanger avec lui pendant plusieurs minutes, notamment sur l'état de l'économie en France. Un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, et dont Charles Gave a un avis assez tranché sur le sujet. Comme tous les entretiens qu'on vous propose, gardez à l'esprit que ce sont les opinions de nos invités que vous entendez. Les faits sont fact-checkés dans un commentaire épinglé en description. Il vous permet de vous renseigner de manière plus approfondie encore sur le sujet. J'espère que cet entretien vous plaira. Bonne vidéo.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, en quelques phrases, ce que sont la dette et le déficit public?
La dette, en bonne théorie économique, ça n'est rien d'autre que des impôts différés. C'est-à-dire que vous avez voté un budget, il est en déficit, c'est-à-dire que vous avez des dépenses qui sont supérieures aux recettes, et donc, pour combler le trou, vous émettez de la dette. Et cette dette est le résultat, donc la dette qui existe aujourd'hui est le résultat des déficits passés. Alors là, je voudrais faire une remarque, c'est que je crois que le dernier équilibre budgétaire que nous ayons eu, c'était avec Monsieur Barr, je crois, en 78. Je vais me tromper, mais c'était à peu près là. Et en 78, et depuis, nous avons toujours eu des déficits. Or, la démocratie, c'est le vote des impôts par les citoyens. Donc, dans une vraie démocratie, ceux qui payent les impôts devraient voter, par exemple, pour un déficit. Et à ce moment-là, ça pose la question essentielle, c'est cette dette, elle sera repayée par nos enfants ou nos petits-enfants. Et ils n'ont pas voté pour ces dépenses. Donc, un déficit budgétaire est antinomique avec un régime démocratique. En principe, le budget devrait être voté par la représentation nationale uniquement en équilibre, puisque tout le reste n'est pas voté par ceux qui paieront.
Du coup, ça voudrait dire qu'on ne vit pas en démocratie?
Ça veut dire que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on n'est plus en démocratie. C'est bien, depuis que, regardez, aujourd'hui, il n'y a même plus la vraie moitié des Français qui vont voter. Pourquoi vous votez? Vous votez contre l'Europe, on vous l'impose quand même. Vous votez pour ceci, on vous en fait pas, on fait pas attention. Vous votez aux élections législatives, on fait des combines d'état-major pour éviter que le parti qui a vraiment gagné soit au pouvoir. Donc ça fait 40-50 ans qu'on est gouverné par une démocratie non représentative. Et il représente rien d'autre, sinon les fonctionnaires qui la gèrent.
S'il y avait une meilleure représentation, selon vous, il n'y aurait pas de dette? Ou elle serait moins
grande? Je ne dis pas assez dans l'autre sens. Je dis, si on était une démocratie, il ne pourrait pas y avoir de dette, puisque vous ne pourriez pas imposer à des gens du futur de payer des impôts pour votre satisfaction d'aujourd'hui. Si vous voulez vivre, si vous voulez que l'État fasse 60% du PIB, des dépenses, eh bien, il faut que vous votiez des dépenses, des recettes à 60%. Là, ce que vous faites, c'est que vous votez des recettes à 40% et que vous allez dire, mes petits-enfants paieront les 20% restants. C'est tout sauf démocratique. C'est un déni de démocratie totale, le déficit budgétaire. C'est ceux qui le votent, ils se votent des augmentations, et c'est leurs petits-enfants qui seront dans la misère. C'est exactement le contraire d'une démocratie.
Est-ce qu'il faut avoir peur de ça?
Il faut jamais avoir peur. C'est complètement idiot d'avoir peur. Si vous avez peur, vous raisonnez de travers. Donc, il faut simplement dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Il n'y a rien aujourd'hui qui est en démocratie. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous avons des déficits budgétaires monstrueux. Il n'y a aucun audit des dépenses de l'État. Personne ne sait où passe le pognon. Je veux dire, mais c'est extraordinaire. On ne sait rien et la presse ne fait pas son boulot. La presse, c'est des derniers à être au courant, apparemment. Ce que me disait un de mes amis récemment, c'est il y a deux sortes de journalistes en France. Ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un boulot.
C'est difficile d'être journaliste aujourd'hui?
Dans la presse officielle, oui, c'est abominable.
Est-ce qu'un jour on va rembourser la dette? Est-ce que c'est grave, justement, d'avoir cette dette-là?
Non, mais attendez une seconde. Il faut avoir peur si vos revenus dépendent de l'État. Si vous êtes un fonctionnaire payé par l'État à faire un boulot que trois autres personnes font déjà dans la ville dans laquelle vous êtes, il est probable que quand on va se retrouver dans une situation similaire à l'Argentine, il y en a plus qu'un sur quatre qui sera payé.
Ça va arriver, selon vous?
C'est inévitable, puisque si vous empruntez à 3%, et que vous investissez à zéro, au bout d'un certain temps, l'exponentielle à 3% croît beaucoup plus vite que l'exponentielle à zéro et vous sautez. C'est là où on est en France. Donc si aujourd'hui les dépenses financières augmentent à une allure extraordinaire, et elles vont pas, aujourd'hui, le premier dépense de poste de l'État, je crois, l'année prochaine, ça va être le service de la dette au-dessus de l'éducation. Et donc il va falloir couper. Et ça, on peut pas ne pas le payer. Puisque si on ne paye pas, on fait défaut. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si on fait faillite, si on rembourse pas notre dette, si on décide que la dette, on peut la rembourser? Ben, plus personne ne va nous prêter. Et comme plus personne ne va nous prêter, la seule façon où on pourra acheter des biens à l'extérieur, ce sera d'avoir un excédent de notre balance commerciale. C'est-à-dire qu'on va devoir passer d'un déficit qui est assez considérable à un excédent en l'espace de deux jours, littéralement. Et ça se passera par un écroulement des importations et du niveau de vie.
Même si on est dans l'Union Européenne et que l'Union Européenne...
Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'Union Européenne? Elle va continuer à nous payer pour qu'on paye des gens, on n'a rien à foutre. L'Allemagne aujourd'hui est dans une récession profonde et elle est en train d'essayer de s'en sortir en réorganisant son appareil de production et en devenant de plus en plus vertueux. Si la France devient de plus en plus vertueuse et que nous on est gouverné par les crétins à l'Assemblée, vous pouvez pas rester dans le même taux de change. Déjà, l'industrie ne fait plus que 8 à 9% du PIB. Elle tombera à zéro. Donc, si vous voulez, il faut faire une différence. Vous avez la création de valeur marchande, qui est faite par le secteur privé. Et puis, vous avez la création de monnaie. Et créer beaucoup plus de monnaie qu'on ne crée de valeur, ça s'appelle la planche à billets. Ça se termine toujours, comme on l'a vu en Argentine, au Venezuela, à Cuba, tout pays vénéré par la gauche en France, tous ces pays-là terminent avec une baisse du niveau de vie considérable. Eh bien, à partir du moment où si on vit, c'est un peu moi aussi crétin d'imprimer de l'argent en pensant qu'on a pris, que ça fera de la valeur, que d'imprimer des diplômes en disant que ça va permettre aux gens d'avoir des bonnes situations. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui, il y a 90% des Français qui ont leur bac. Eh bien, c'est pas pour ça que vous avez 90% des gens qui peuvent être des intellectuels. Vous imprimez des diplômes qui sont des faux diplômes, c'est comme de la fausse monnaie.
Aujourd'hui, le bac, c'est comme un faux diplôme pour vous?
Le bac, c'est... Moi, quand j'étais gamin, passer le bac, c'était la galère. Hein. J'ai eu du mal, d'ailleurs, mais ça ne veut rien dire. Relisez simplement les copies de certificats d'études des gens des années 45-50... Et vous rendez compte que il n'y a pas un gars d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui passent le bac ne seraient pas capables de passer le certificat d'études, Vous savez, on faisait partir un train de Lyon qui arrivait à Paris, puis il y avait l'autre qui partait dans l'autre sens. Il fallait calculer quand ils allaient se croiser. Bah, on pense encore.
Si on avait les souvenirs encore marqués.
C'était la galère.
Je vous arrête un petit instant. Si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse. Si vous voulez voir d'autres contenus du même genre, pensez bien à vous abonner. Je vous laisse.
La dette augmente. Alors, on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je t'explique bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc, c'est important de dire que...
C'est un homme de gauche, il comprend rien à l'économie, vous pouvez couper. Vous pouvez couper, on peut pas dire des bêtises grosses comme ça. Il y a une légère différence. C'est que la dette, c'est pas la dette de la France. C'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est au particulier français. Donc ce monsieur est en train de nous dire, tranquillement, que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique.
Oui, mais le château de Versailles, par exemple, c'est un patrimoine français qui appartient à l'État français.
Qui c'est qui va l'acheter? Vous allez pas le démonter pour l'amener aux États-Unis? La Tour Eiffel. Et puis en plus, on a fait des calculs sur la valeur du patrimoine français. Et là, le patrimoine public, compte tenu de la dette publique, est à moins 400, moins 500 milliards, facile. Donc ce monsieur dit n'importe quoi, il comprend pas la comptabilité en partie double, et il comprend pas la notion de droit de propriété. Et il se dit économiste, il n'y aurait jamais eu de croissance économique dans un pays s'il n'y a pas de droit de propriété. Pourquoi je me défoncerais pour laisser un État, pour qu'il me vendrait les immeubles que j'ai achetés, parce que j'ai bossé comme un fou, pour le donner pour le transférer du pognon à des gens qui bossent pas? C'est même pas envisageable. L'économie, c'est la création de valeur. À partir d'aujourd'hui, dans le budget aujourd'hui, les dettes qu'on crée ne créent aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée, c'est créée par le secteur privé. Et la question que je pose toujours, c'est très bien. Vous avez embauché, j'ai fait des travaux savants, je pourrais vous les envoyer si ça vous amuse. Donc je montre que chaque fois que vous embauchez un fonctionnaire, le poids de l'État dans l'économie augmente, puisque vous avez embauché un fonctionnaire. Et quand vous avez embauché un fonctionnaire, ça met trois personnes au chômage. Parce que les gens que vous payez ici, ils sont payés par le secteur privé, du coup, ils ne peuvent pas embaucher les gens. C'est-à-dire que vous avez une relation complètement parfaite entre le poids de l'État dans l'économie, s'il augmente, un an plus tard, le chômage augmente. Si le poids de l'État baisse dans l'économie, un an plus tard, le chômage baisse. Donc, si vous voulez cette idée que le poids de l'État dans l'économie n'a aucune importance, c'est complètement crétin.
Mais vous m'avez fait couper la vidéo, mais juste après, il parle du fait que les gens investissent quand même davantage en France parce qu'on fait confiance à la dette française. Par rapport à une dette qui serait dans un pays
où, je veux bien, mais le jour où les gens faisaient confiance à la dette anglaise, qui était le gilt, c'était la monnaie de réserve du monde, c'était la dette anglaise, et ça c'était en 1935. Et en 1975, 40 ans après, le FMI était à Londres.
C'est-à-dire le FMI
Le FMI était à Londres pour dire à l'État britannique comment il devait gérer. Donc si vous voulez, l'année prochaine, il va falloir trouver entre 350 et 400 milliards d'euros sur les marchés.
Comment on fait?
Là, je sais pas quel est l'imbécile qui va nous prêter. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, on est incapable de rembourser. Vous faites tourner n'importe quel tableau Excel et vous vous rendez compte qu'on ne remboursera jamais. Ça va passer à 400, puis à 500, puis à 600. Et la question, c'est ce que disait Oscar Wilde. Il disait, quand on lui demandait comment il s'était ruiné, il avait dit lentement au début, très vite à la fin. Ça fait 40 ans que les gens tirent des traites sur l'économie française pour acheter des voies de la paix sociale. Ils ont acheté aucune paix sociale, d'ailleurs, ça marche pas du tout. Et aujourd'hui, on arrive au moment où l'étranger va refuser de financer notre dette. Et à ce moment-là, le pouvoir d'achat des Français, c'est très simple. C'est ce qui crée la création de valeur, plus que l'État emprunte pour eux, les transferts. Et le jour où on ne pourra plus emprunter, notre niveau de vie va baisser. Celui-là va passer à zéro. Et on va se retrouver avec un niveau de vie qui va baisser de 20%.
Mais est-ce que ça arrivera vraiment, le fait qu'on ne pourra plus emprunter, que l'État français ne pourra plus emprunter?
C'est arrivé à la Grèce, c'est arrivé à Chypre. C'est arrivé à l'Argentine, c'est arrivé au Zaïre, c'est arrivé au Venezuela, c'est arrivé, et chaque fois que c'est arrivé à Cuba, c'est arrivé au Liban.
Aucune ne sont des grandes puissances.
Et l'Angleterre, c'était pas une grande puissance?
Si, par exemple.
Elle a sauté en 77, c'est pour ça qu'ils ont élu Madame Thatcher après, à cause des crétins qui disaient que la dette n'avait pas d'importance. Si vous voulez, la dette, c'est que de l'impôt différé. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous empruntez et que vous laissez la charge de l'emprunt au suivant, en partant du principe que les actifs qui ont été créés dans l'intervalle couvrent seront plus élevés que la dette. Et qu'est-ce qui se passe si les actifs baissent? Je vous donne un exemple. En Italie, très beau pays d'Italie, que j'aime beaucoup, vous avez... Aujourd'hui, la démographie est tellement mauvaise que chaque petit enfant a 4 grands-parents. Vous direz, c'est pas bien nouveau, ça. Hein, mais ce qui est étonnant, c'est que pour ces 4 grands-parents, c'est le seul petit enfant. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous acheter une maison dans n'importe quel village ou petite ville en Italie, on vous la donne. On vous paye pour l'acheter. Donc qu'est-ce que vaut le patrimoine immobilier italien aujourd'hui, compte tenu de ses fondements démographiques? Rien. Et vous pouvez ne pas le faire sans une dette. Et là, vous comparez un patrimoine, une dette qui est liquide, qui est payée, qui est tous les jours sur les marchés, dont la valeur est inconnue, à un truc qui est complètement illiquide dans les mains du privé. Mais c'est n'importe quoi. L'idée, si vous voulez, qu'on peut vivre en s'endettant, c'est-à-dire que vous dites tranquillement, je peux vivre en volant. Ce que disait Bastiat, qui est un grand économiste que j'aime beaucoup, qui écrivait un français merveilleux d'ailleurs, il disait, si vous voulez vraiment quelque chose dans la vie, il y a 2 choses que vous pouvez faire, il n'y a que 2. Vous pouvez soit travailler comme un fou pour l'avoir, hypothèse numéro 1, soit la voler. Et ce que dit cet économiste, c'est que c'est plus simple de voler. Ils ont raison. Et il disait Bastiat, si vous vous mettez dans une démocratie, si vous vous mettez suffisamment ensemble pour décréter que le vol est une bonne idée, à ce moment-là, vous pourrez voler. Et c'est ce qu'ils ont organisé. Ils volent. C'est du vol à la tire. Et ils s'en félicitent. Ils appellent ça la justice sociale. Et les gens deviennent de plus en plus pauvres. Parce qu'il y a de moins en moins de valeur qui est créée, parce que tous les gars qui sont capables de créer la valeur s'en vont. Moi, j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. Quand j'étais à Hong Kong, il y avait 5000 Français. C'est bien. Aujourd'hui, il y a eu le changement de régime, etc. Et à Hong Kong, il y a 20 000 Français, tous chez l'entreprise. Ils sont pas en France. Vous allez en Floride, il y a que des Gaulois. Vous allez à Londres, toute la city, dans tous les marchés obligataires, il y a que des Gaulois. Vous allez en Californie, il y a que des Gaulois. Vous allez à Hong Kong, il y a que des Gaulois. Vous allez en Thaïlande, vous trouvez que ça. On est en train de perdre tous les gars qui sont capables de créer de la valeur.
Mais pourquoi? Ils sont bons. Pourquoi?
Parce que vous gagnez pas.
On ne paye pas assez en France?
C'est pas qu'on paye pas assez, c'est que le risque n'est pas récompensé. Vous prenez un risque essentiel quand vous êtes un entrepreneur. Vous risquez de sauter. À tout moment. Vous avez aucune garantie sociale. Il n'y a pas d'assurance chômage pour les entrepreneurs. Et quand vous regardez ce qui se passe en France, c'est pas difficile. Si vous gagnez 100 en tant qu'entrepreneur, vous avez du pot si vous en reste 40. Si vous avez gagné 100 à Hong Kong, il vous en reste 90. Donc vous pouvez réinvestir 2 fois plus vite. Donc en France, si vous gagnez, vous êtes un haut fonctionnaire, vous gagnez 100 000 euros. Vous êtes un employé à 4 de chez L'Oréal, vous gagnez 100 000 euros. Vous êtes un entrepreneur, vous gagnez 100 000 euros. Le fonctionnaire, il est certain de gagner 100 000 euros jusqu'à la fin de ses temps, même de probablement 2 ou 3 fois, s'il peut avoir 14 retraites, comme l'avait eu. Le type qui s'est occupé des retraites, là, c'est de l'État, il gagne beaucoup plus que ça. Monsieur Hollande a à peu près 350 000 euros par mois de retraite.
350 000 euros par mois?
De retraite, avec toutes les retraites qu'il a accumulées. Pareil pour Jospin, pareil pour Juppé, pareil, ils ont le conseil général, tout ça. Donc, vous prenez ce gars-là, mettons qu'il ait 100 000 euros de retraite, ce qui serait très bien pour une année. Moi, en tant que chef d'entreprise, si je veux avoir 100 000 euros par an, il faut que j'ai un capital qui m'assure ça, qui soit indexé sur l'inflation. Eh ben, il faut que j'ai un capital de moins 20 millions. Sinon, je peux pas le faire. Donc, tous ces gars-là se font des retraites en or, et qui les paye? Ben, c'est moi.
Avec les impôts que vous payez.
Ou la dette. Comment? Ou la dette qu'ils empruntent pour payer leur retraite. C'est profondément injuste. Normalement, le type qui est un fonctionnaire, il devrait être taxé à 60%, marginalement. Le type qui est chez L'Oréal, il prend un peu plus de risque, il peut être viré, il devrait être taxé à 40%. Et l'entrepreneur, il devrait être taxé à 10%, comme à Hong Kong. Parce que lui, ça peut disparaître du jour au lendemain.
Mais est-ce qu'on risque pas de créer plus de pauvreté si on taxe le fonctionnaire, par exemple, si on taxe beaucoup plus le fonctionnaire?
Ah, mais il y en a peut-être beaucoup moins qui voudront être fonctionnaires, oui. Et qui seront obligés de se mettre au boulot. Aujourd'hui, pour 10 000 employés, vous avez 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas plus mal gérée que la nôtre, hein. Que nous. Donc cette idée, si vous voulez que Si vous donnez du pognon en empruntant à des bons à rien qui vont le dépenser, comme ça, ça va maintenir la croissance économique, ça maintient rien du tout. Ça maintient la pauvreté. D'ailleurs, si vous faites une relation entre le poids de l'État, dans l'économie et la pauvreté, plus le poids de l'État dans l'économie est gros, plus la pauvreté est forte. L'État crée de la pauvreté naturellement parce que comme ça, ça lui permet de subventionner des gens qui ensuite voteront pour lui. C'est tout ce qui se passe. C'est l'histoire de l'argent.
On fait gonfler la dette pour se faire élire.
Exactement. En payant les gens de rien foutre, en leur expliquant qu'ils doivent avoir peur. Toute la politique maintenant depuis 25 ans, quand j'ai quitté la France en 81, c'est un pays gay, joyeux, les gens rigolaient dans la rue, les femmes aimaient les hommes et les hommes aimaient les femmes, c'était merveilleux. Et puis d'un seul coup, je suis revenu il y a quelques années, les Français sont devenus un peuple sinistre, triste, qui a peur de tout. Pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus subventionnés. À partir du moment où vous êtes subventionné, vous ne pouvez pas dire non à celui qui vous subventionne.
Il n'était pas dans les années 80.
Pas du tout. Quand De Gaulle était au pouvoir, l'État faisait 30% du PIB. Et la Suisse était à 30% du PIB aussi. Aujourd'hui, la Suisse est où ? À 30% du PIB. Ils sont riches comme des puits. Il y a plein d'emplois, il n'y a pas de problème. Et nous, on est à 60. Et notre niveau de vie est la moitié de celui qui était des Suisses alors qu'il était plus élevé en 1960. Donc quand est-ce que les Français vont admettre que recevoir des subventions, c'est déshonorant pour celui qui le reçoit et pour celui qui la donne. C'est déshonorant dans les deux cas de figure. C'est honteux.
Est-ce que l'argent gouverne tout aujourd'hui ? Est-ce que c'est...
Vous rigolez, il gouverne un certain nombre de trucs. Mais ça, c'est encore un truc qui ne veut rien dire, parce que l'argent gouverne tout. Si vous en avez pas, oui. Mais moi, dès le départ dans ma vie, j'ai eu qu'une idée, c'était de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir dire à ceux avec qui je travaillais, le cas échéant, « fuck you ». C'est-à-dire d'atteindre ce que j'appelais le « fuck you money ». C'est-à-dire que le but dans la vie, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour dire aux politiciens de base qui vous disent « si tu ouvres ta gueule, t'auras pas ta subvention », je lui dis « j'en ai rien à foutre de votre subvention, je suis libre, j'ai du fric à moi, je suis libre, je vous emmerde ». Et il n'y a pas d'autre façon d'être libre, l'argent c'est de la liberté frappée. Donc il n'y a pas assez d'argent gagné, il y a beaucoup trop d'argent distribué, mais il n'y a pas assez d'argent gagné. Parce que l'argent gagné, c'est la clé de la liberté.
Mais tout le monde ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour être libre, si ?
Ben, il suffit qu'il y a déjà 30 ou 40% des gens importants qui gagnent suffisamment pour pouvoir dire merde, pour que les entreprises existent, pour qu'elles disent non. Je vous donne un exemple. Quand la Suède a fait faillite en 92, plus personne n'existe, je me souviens. C'était un pays aussi qui avait eu le bonheur d'avoir des administrations socialistes complètement débridées pendant un certain nombre d'années. Donc la Suède fait faillite en 92. J'étais dans le bureau d'ailleurs du banquier central. Ce jour-là, c'était très gai. Il y a eu une tentative, si j'ose dire, un peu à l'achevènement, de dire on va aller vers plus de socialisme, parce que la raison pour laquelle la Suède fait faillite, c'est qu'on n'a pas fait assez de socialisme. Vous savez, c'est la thèse de l'extrême gauche que Mitterrand, en 1983, a trahi.
C'est la question que j'allais poser après, est-ce qu'on n'est pas dans une ère trop libérale, justement?
Vous voyez, à 65% du PIB, l'État est trop libéral.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas assez de contrôle sur les flux d'argent? Est-ce que l'argent ne gouverne pas tout? C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que c'est pas, on enlève un peu l'État de plus en plus et c'est l'argent qui décide si on a le droit?
L'État, on l'enlève de plus en plus? Et vous avez vu ça, vous vivez dans quel pays? Quand j'étais jeune, il y avait par exemple des hôpitaux. Il y avait un économe, et puis c'était tout, qui s'occupait de l'économie. Et aujourd'hui, vous avez 40% des hôpitaux qui sont contrôlés par l'État,
ah oui,
avec des fonctionnaires qui servent à rien. Ah mais contrôle.
Oui, mais il y a moins d'investissement dans les hôpitaux ou dans les services publics, de manière générale, aujourd'hui.
Vous rigolez? Ces 40%, ils servent à rien. Puisque ça, autrefois, l'hôpital, c'était géré par le titre de la CGT locale, par le grand patron médecin local, et par le député maire. Et ça marchait très bien. On avait le meilleur système hospitalier du monde. Et maintenant, depuis les réformes Juppé, un autre considérable crétin qui était inspecteur des finances, comme la plupart d'entre eux, d'ailleurs, depuis les réformes Juppé, il y a 40% du personnel qui ne travaille rien qu'à remplir des papiers et qui les envoie à Paris. Et ils ne voient jamais un malade. Aujourd'hui, vous avez 12 ou 15% du personnel de l'éducation nationale qui ne voit jamais un élève. Et vous trouvez qu'on est trop libéral? Vous devriez aller un petit peu à l'étranger, hein, pour voir ce que c'est un pays libéral. Allez à Hong Kong, tout marche. Les hôpitaux, l'école, les universités. Maintenant, ils ont des 20 meilleures universités du monde. Et on paye 17% d'impôts. Et tout marche.
Il n'y a pas plus de gens, je pose la question parce que je ne connais pas la situation d'Hong Kong, il n'y a pas plus de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté à Hong Kong qu'en France?
Oui, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc personne n'a intérêt à être au chômage. Il n'y a pas de chômage à Hong Kong. C'est ce que disait Milton Friedman, qui était un grand intellectuel. Il disait, si vous payez les gens à ne rien foutre, et si vous taxez ceux qui bossent, faut pas vous étonner si le chômage augmente. Si on paye les gens à ne rien foutre et si on taxe ceux qui bossent, oui, en effet, le chômage augmente. Ça ne paye plus de travailler. Et donc, comme essayer de travailler, c'est essayer de rendre service aux autres. Ce que vous pouvez faire de mieux dans la vie, c'est rendre service aux autres, en travaillant pour eux, en leur rendant service, en dépouvant des trucs dont ils ont besoin. Si on vous empêche de le faire, un, vous êtes malheureux, et deux, vous appauvrissez. Plus l'État est gros, plus la société est pauvre. C'est toujours le cas. Il n'y a pas d'exemple que ça n'a pas passé. Regardez, Cuba, mais ils sont en train de faire faillite de façon épouvantable. J'ai des amis cubains, qui étaient à la retraite, un vieux monsieur qui était à la retraite, qui était d'ailleurs un communiste tout à fait. Il a une retraite de 80 euros par mois. La pauvreté à Cuba, au Venezuela, il y a 2 millions de personnes qui ont quitté le Venezuela pour passer au Pérou à pied, à cause de ce crétin sanglant qui était au Venezuela. Donc, c'est quand même rigolo qu'on regarde le monde et qu'on accuse de tous les péchés du monde les seuls pays où on soit libre. La liberté, c'est devenu le truc interdit. Mais alors la contrainte, le pouvoir étatique, pourquoi on a fait tomber l'Union soviétique? Parce qu'ils étaient trop libéraux? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi tous les pays de l'Est, comme par exemple la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, disent « on veut pas de votre connerie à Bruxelles, on a déjà donné ».
Pour vous, là, aujourd'hui, l'Union européenne, ça ressemble à...
C'est l'URSS.
En quoi?
C'est-à-dire que les décisions sont prises de plus en plus haut par de moins en moins de gens et qui les imposent aux gens en dessous. C'est-à-dire que vous avez deux... Ce que dit Raoul, qui est assez malin, il dit « vous pouvez organiser les sociétés de deux façons. Soit une société fondée sur l'obéissance, soit une société fondée sur la compétence. » Et les sociétés fondées sur l'obéissance veulent toujours détruire les fonds de société fondées sur la compétence parce que ça les fait chier. Parce qu'ils aiment avoir des gens obéissants, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si vous voulez, toute notre administration qui a cru est fondée sur l'obéissance et détruit les sociétés de compétences. Ils ont détruit l'école, ils ont détruit l'université, ils ont détruit l'univers, ils ont détruit notre système économique, ils ont détruit EDF, ils ont détruit... Parce qu'ils ne supportent pas la liberté.
Mais quel intérêt pour eux?
D'être les chefs, de distribuer les tickets de rationnement. Dans une société de pauvreté, celui qui distribue les tickets de rationnement, le fonctionnaire, est le sommet du panier. C'est lui qui a toutes les femmes.
Ça serait quoi la société idéale pour vous? Qui serait un pays, la Suisse?
La Suisse, ils votent surtout. Vous connaissez le nom d'un politicien suisse, vous?
Je connais pas suffisamment la politique suisse, mais je suis pas sûr que les Suisses eux-mêmes connaissent le nom.
Mais c'est quoi, non? Écoutez. Ils ont la monnaie la plus forte du monde, le niveau de vie le plus élevé du monde, aucune ressource naturelle, le plein emploi, le SMIC en Suisse, je crois, est à 4500 euros aujourd'hui, contre 1500 à nous, alors qu'ils étaient plus bas il y a 50 ans. Et c'est peut-être parce que vous connaissez pas le nom d'un seul politicien que la Suisse marche. C'est parce qu'ils votent sur tout. Le souverain s'exprime sur tout, le peuple. Par exemple, vous aviez le Tchador qui a été voté en Suisse, là. Ils ont fait une votation, comme ils disent. 57% des Suisses se sont dit « Non, on ne veut pas de Tchador dans les villes. » Il dit d'ailleurs nulle part. Fin de la discussion. Le souverain a parlé. Le peuple suisse a dit « On ne veut pas de Tchador chez nous. » Et donc, les juges n'ont rien à dire. Les politiques n'ont rien à dire. Les églises n'ont rien à dire. Pas de Tchador, ça a été décidé par le souverain. Donc, dès le moment où c'est décidé par le souverain, la justice, par exemple, qui en France est grotesque, n'a plus rien à dire. C'est le souverain qui a décidé. Par exemple, on doit faire un référendum sur l'immigration.
Vous posez quoi comme question?
Vous posez comme question, par exemple, ce qu'ils ont fait au Danemark. Quelqu'un qui vient dans notre pays et qui, au bout de 6 mois, n'a pas de boulot, il s'en va. C'est un pays de gauche. On ne paye pas jusqu'à la fin des temps, rien foutre. Il n'y a pas de vocation. Sur les types qui sont arrivés, les 2 millions de Syriens qui sont arrivés en Syrie, de Syrie en Allemagne, quand Mme Merkel les a laissés rentrer, je crois qu'il y en a 30% qui ont un boulot aujourd'hui. 70% sont sur les listes sociales. Et pourquoi? Non, mais pourquoi? Quelle est la logique?
Après, il y a des enjeux démographiques aussi. Peut-être que avoir l'immigration et ils vont avoir des enfants qui vont permettre de soutenir l'économie allemande dans le futur.
Oui, mais en tout cas, c'est pas le cas. puisque le. Mais encore une fois, c'est, si vous voulez, je suis pas certain que les économies qui marchent, c'est celles où les, qui ont une certaine homogénéité sociale, quoi. Regardez par exemple aujourd'hui les gens qui sortent du. Moi, j'ai une de mes belles sœurs qui est prof d'université. Elle m'a dit qu'elle va arriver des gars à l'université qui peuvent pas écrire une ligne sans faire trois fautes de français. Donc, c'est pas tout de faire venir des gamins. Encore faut-il les former. Encore faut-il qu'ils acceptent le cadre de vie. Encore faut-il. Et c'est
et,
pas.
Et les Français dans ce cas-là, des gens qui sont nés en France, de parents français ou même qui sont français, qui sont pas immigrés et que eux. Qui paraît ne travaille pas et sont subventionnés.
Eh ben, croyez-le, c'est très curieux. Qu'est-ce que tu en fais de? Je suis arrêté dans la rue sans arrêt parce que je fais des YouTube, c'est des gens même. Et deux fois sur trois, c'est des gens ici de l'immigration. Qui me disent merci beaucoup de dire tout ce que vous dites. C'est-à-dire que je suis persuadé que dans l'immigration, dans les, aujourd'hui en France, vous avez 80% des gens qui, facile, qui n'ont aucune idée, c'est de bosser et de devenir des bons français. Et qu'ils font. Qu'ils bossent et qu'ils sont des bons français. Et vous avez 20 à 25% des gens, qui foutent le merdier, et on s'intéresse qu'à eux, et c'est à eux que vont toutes les subventions. Mmh. Donc, c'est tout simple. Puisqu'ils sont des bons Français, vous pouvez pas les renvoyer chez eux, puisque c'est la France. Je sais pas. Vous pouvez peut-être trouver ouvert Cayenne, terre des bagnes.
Décision radicale.
Mais c'est pas du radical. Si le crime paye, c'est ce qu'a montré Gary Becker, un grand économiste qui a eu le prix Nobel pour ça, si le crime paye, la criminalité augmente. Aujourd'hui, le drame de notre pays, c'est que le crime paye. Ça paye d'être un criminel, ça paye pas de bosser. Et donc, le nombre de criminels augmente. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous trouvez qu'il est scandaleux de mettre, de punir des criminels.
Bah, Cayenne, c'est le bagne, et ça fait appel à des...
Ben, ça fait, oui, mais en même temps, c'est fou, comme le territoire français était débarrassé des gens dangereux. Puis, le type qui revenait de Cayenne, il se tenait à carreau, après, hein.
Donc, je sais pas si...
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez Cayenne, le crime ne paye plus.
Je sais pas s'il y avait des gens, si la France était moins dangereuse à l'époque où on envoyait les gens à Cayenne qu'aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre sujet.
Bon, on n'y a qu'à regarder les statistiques de la criminalité, c'est pas dur, hein. Oui. À l'époque, il n'y avait pas 150 coups de couteau par jour en France, hein. Dans les rues. C'est le cas aujourd'hui. Je suis pas forcené de l'ordre et de tout ça. Je dis simplement, un pays ne peut pas vivre si l'État ne remplit pas ses pouvoirs régaliens. Et le pouvoir régalien le plus important, c'est la sécurité des personnes. Or, aujourd'hui, en France, nous sommes en train d'abandonner la sécurité des personnes comme privilège étatique. Ça veut dire que les seuls qui seront en sécurité seront les riches. Parce qu'ils vivront dans des ghettos, et ils auront des gardes armés qui les protégeront.
C'est ce qui se passe dans certains États, par exemple aux États-Unis.
Exactement, c'est ce qui se passe dans certains États, mais je trouve pas ça. C'est simplement parce que l'État fédéral américain a abandonné ses prérogatives. Donc vous êtes, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est les gens qui souffrent le plus quand l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire et fait ce qu'il ne devrait pas faire comme de donner des subventions, c'est les pauvres. C'est eux qui en prennent plein la gueule. C'est eux dont le niveau de vie baisse. Je me tue à dire aux gens, une société est juste si les gens qui sont tout en bas voient leur niveau de vie monter au travers du temps. Régulièrement. Et ce qui se passe en haut, tout le monde s'en fout. Mais ce qu'on a en France aujourd'hui depuis 20 ans, depuis que tous ces socialistes sont arrivés au pouvoir, comme chaque fois que ça se passe d'ailleurs, c'est que les riches et les puissants deviennent de plus en plus riches, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et d'après John Rawls, qui est un grand philosophe américain, qui a enseigné à Harvard, qui est mort il y a 20 ans, c'est une société injuste. Une société ne peut pas exister si les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les plus riches deviennent de plus en plus riches. C'est ce qui se passe en France depuis 20 ans. C'est inacceptable. Et c'est à cause du socialisme. C'est pas en dépit du socialisme, c'est le socialisme qui crée ça.
Mais il n'y a jamais eu le socialisme aux États-Unis, et pourtant, ça, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis.
Oui, mais c'est, aux États-Unis, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un refus de l'État fédéral de faire ses prérogatives pour des raisons idéologiques. Vous n'avez pas de socialistes aujourd'hui aux États-Unis, vous n'en avez pas eu vraiment, mais vous avez des woke. Tant que vous en voulez, c'est même l'accéder. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'être con. Vous pouvez être socialiste, vous pouvez être woke, mais le résultat final, c'est que les pauvres s'appauvrissent dans les deux cas.
Oui, mais avant les woke, les États-Unis c'était la même situation, non? Depuis des années, enfin, ça a toujours été le modèle américain.
Sous Reagan, il n'y avait aucun problème.
Il n'y avait pas des très pauvres aux États-Unis.
Oui, mais c'est ça, s'il faut lire le bouquin de John Sowell, qui est un type remarquable. Vous savez, c'est ce grand économiste américain, qui est Thomas Sowell, pardon, qui est un type remarquable. Il dit, la statistique que vous mesurez, il y a toujours des très pauvres, etc. Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que c'est jamais les mêmes. Et moi, j'étais un très pauvre aux États-Unis, parce que j'étais étudiant, j'ai des parents, et je tirais le date par la queue. Mais j'en suis sorti assez vite. Est-ce qu'il y a des tendances, si vous voulez?
Il y a une grande mobilité sociale aux États-Unis aujourd'hui.
Énorme. Énorme. Vous pouvez passer en l'espace de quelques années de plus pauvre à... Et le seul endroit où la pauvreté a continué, c'est l'endroit où la pauvreté est subventionnée, c'est-à-dire les quartiers noirs, où dans le fond, depuis Lyndon Johnson, c'est ce que montrait bien Thomas Sowell, qui d'ailleurs est noir, depuis Lyndon Johnson, on subventionne la mère de famille sans enfant. Donc, quand le Johnson était président, c'est-à-dire, c'était 1969, par là, oui. Non, c'était plus tôt, c'était en 62-63. 63, 64, 65, oui. Johnson, c'est lui qui a commencé la guerre au Vietnam. Donc, comme Johnson a été président, les naissances en mariage dans la communauté noire, c'était 15%. Aujourd'hui, c'est 65. Parce que vous payez les femmes si elles n'ont pas de mari. Et donc, et quel est le marqueur le plus important de la criminalité, d'après toutes les études de criminalité? C'est l'absence de père à la maison. On peut dire que les Noirs ont été détruits par la politique sociale, qui était d'origine socialiste d'ailleurs, de Johnson. Et toutes les études le prouvent. C'est pas moi qui le dis, hein. Je suis pas. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est, mais arrêtez de vouloir le bien des gens. Laissez-les se démerder. Vouloir faire le bien des gens, comme le disait Bastiat. Il y a trop de gens qui veulent être père des peuples, conductorés. Président, foutez la paix aux gens. C'est pas difficile comme programme, non? Arrêtez d'emmerder les gens. Par exemple, j'ai embauché récemment, il y a 2 ans entre eux, une jeune nièce. Je la paye 2000 euros par mois pour m'aider dans les travaux. Elle me coûte 4000. Vous pouvez me dire, en Angleterre, je l'aurais payé 2000, elle m'aurait coûté 2300, et puis voilà. Vous pouvez me dire, où vont ces 2000? Pourquoi on a le droit de les prendre sur le travail de cette petite? Pourquoi moi je dois payer quelqu'un 4000 alors qu'elle ne touche que 2000? Où vont ces 2000? Quelles sont la justification? Mais expliquez-moi. Au nom de quoi on lui pique la moitié de son travail? C'est un impôt. C'est un impôt sur les pauvres.
Bah non, c'est l'employeur qui paye l'impôt. Enfin, mais c'est vous qui payez les 4000.
C'est moi qui paye, je paye les 4000. Mais moi je lui paierai les 4000 comme je les paye si elle serait très contente d'en toucher 3600. Mais je peux pas l'augmenter parce que si je l'augmente de 100 euros, ça me coûte 700 euros. Puisque pour augmenter, quand vous êtes presse de Zezola, si vous augmentez de 100 euros, pof, les charges sociales augmentent de 700. Donc si je l'augmente de 100, elle va me coûter 800 de plus. Mais vous ne trouvez pas que c'est un système imbécile? Et c'est là-dessus que vit notre société. Et on pense qu'un système imbécile qui favorise la paresse, les fraudes et tout ça, va nous amener à une société heureuse. Mais ils sont complètement couillus.
Si vous aviez une baguette magique, on pourrait mettre 3 mesures en France, appliquer 3 mesures en France sur l'économie notamment, qu'est-ce que vous feriez?
Oh, ce sont pas difficiles, ce que je ferais. Première des choses, c'est que c'est de l'ordre des priorités qui est important. La première, c'est que j'interdirais aux fonctionnaires de se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter, mais à ce moment-là, ils ne retourneront jamais dans la fonction publique. La France, dans les pays normaux, de démocratie normale, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, si un fonctionnaire se présente aux élections et qu'il est élu, il abandonne la fonction publique pour toujours. Vous ne pouvez pas passer de la fonction administrative à la fonction politique. Aller-retour, si vous faites battre, vous amène dans l'inspection des finances, faut que vous avez votre carrière et votre... Donc la première des choses, c'est où les fonctionnaires sont fonctionnaires, ils restent fonctionnaires toute leur vie, ou ils sortent de la fonction publique pour toujours. Il n'y a pas de retour automatique. Parce que, en France, aujourd'hui, on a donc puisqu'il n'y a pas de risque à se présenter, puisque vous serez repris dans la fonction publique, dans votre enseignement, dans votre école, etc., c'est pas bête. Comme il n'y a pas de risque, à ce moment-là, vous avez dans les assemblées un peu partout, vous n'avez que des fonctionnaires. Et vous serez surpris de constater que les fonctionnaires prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation nationale, c'est massivement des gens issus de la fonction publique, et ça n'a plus rien à voir avec le pays. Encore une fois, ce n'est pas une démocratie. Les fonctionnaires ont organisé un système où ils contrôlent le système en élisant eux-mêmes ceux qui contrôleront le système. C'est quand même stupéfiant. Première des choses, donc, le fonctionnaire, il peut se présenter, mais ensuite, il sort de la fonction publique pour toujours, il ne reviendra jamais. C'est une mesure qui existe partout. Il n'y a qu'en France qu'elle n'existe pas. Donc ça, c'est la première des mesures. La deuxième mesure que je prendrai, c'est que, comme De Gaulle en a montré l'exemple, tout fonctionnaire qui a travaillé dans la fonction publique a droit à une fonction, a droit à une retraite de la fonction publique, payée par les impôts. Et une seule. Choisis laquelle. De Gaulle avait choisi sa retraite de colonel. Quand il est parti. Je vois pas pourquoi des fonctionnaires, on va avoir 14, 15, 12, 10 retraites, toutes payées par les impôts. Ils ont pas travaillé 14 fois plus dans la, que dans le secteur privé, hein.
Or, il y a un plafond aujourd'hui, quand même.
Mais, regardez simplement le nombre de retraites que touche Hollande. Maire de Tulle, conseiller général, député, ministre, président de la République. Je crois que j'avais fait les calculs, j'avais fait un article, il s'appelait la retraite de Monsieur Hollande. Je crois que c'était, il touchait, il devait être à 350 000 euros par an, oui. Deux retraites payées par nos impôts pour ce type qui a fait des conneries. C'est quand même étonnant. Non, mais sans blague, ça veut dire que je devrais un capital de 40 millions pour avoir une retraite de 350 000. Donc, il faudrait imposer Monsieur Hollande de 2% sur son capital virtuel, qui est la retraite qu'on va lui payer maintenant à sa jeune femme. Donc, deuxième truc, vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à une seule retraite. Point barre. Vous pouvez cotiser à des retraites par ailleurs du secteur privé, mais vous pouvez pas toucher des retraites qui sont garanties par les impôts. Ça me semble un truc qui serait normal, ça aussi. La troisième chose qui me serait tout à fait indispensable, c'est qu'avoir un audit des dépenses de l'État. Charles Pratt, par exemple, dans ses livres, a montré quelque chose d'intéressant, c'est que, en France, nous sommes, je crois, 68 ou 69 millions de citoyens, et il y a 76 millions de cartes vitales. Ben, une question qui m'intéresserait, c'est qui sont ces 7 millions de cartes vitales qui apparemment dépensent abondamment dans nos pharmacies et dans nos chaînes de médecins? D'autant plus que tant que les enfants n'ont pas 18 ans, je crois que les enfants sont sur la carte vitale de la mère, mais je me trompe peut-être. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fraude absolument gigantesque dans tout l'appareil industriel français. Et vous avez 490 hautes autorités, grands conseils, plans de ceci, plans de cela, où il y a des gens qui touchent, qui sont là, qui sont mis là, comme Bayrou de Secours avait été mis au plan, où il avait voiture de fonction, etc. Il a multiplié par 7, je crois, le coût du plan, qui sert à rien, pendant les années où il y était. Donc, il y a des gens qui doivent se gorger de trucs publics, donc je voudrais voir qui dépense le pognon, où et pourquoi. Et à ce moment-là, on pourra se présenter devant les Français en disant, vous savez, peut-être avoir un haut conseil à la concurrence entre les fonctionnaires, c'est pas vraiment indispensable. On pourrait le supprimer, son président, sa voiture de fonction. Un haut conseil au contrôle des bonbons qu'on donne aux enfants. Oui, je veux dire, c'est quand même, il y a quand même 490. Ça doit représenter des centaines, mais littéralement une centaine de milliards.
490, quoi?
Hautes autorités, grands conseils, regardez aujourd'hui dans les hôpitaux, vous avez une autorité, je crois, départementale, une autorité régionale, une autorité nationale, ça s'appelle je sais pas comment, et chacun fait des rapports à l'autre en montant comme ça. Il y a 50 ans, il n'y en avait aucune des trois qui existait. À quoi ils servent? À rien. Mais rien. Mais ça bouffe 40% du budget de la sécu. Donc maintenant, on ferme des hôpitaux pour ouvrir des postes de garde-papier.
Dans les mesures que vous avez énoncées, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une personnalité politique
qui représente
un peu ces idées-là
Lisnard.
Est-ce qu'il y a une idée économique ou politique que vous êtes prêt à défendre, mais qui vous ferait passer pour un fou aujourd'hui?
Si j'ose dire, toutes mes idées me font passer pour un fou. En France, hein. Mais j'ai cette chance extraordinaire de travailler dans les marchés financiers. Et les marchés financiers sont ainsi faits qu'ils ne suivent que la rentabilité marginale des capitaux investis, c'est-à-dire est-ce que vous gaspillez le pognon ou pas. Je vous donne un exemple. Facile. C'est que les génies qui nous gouvernent ont décidé il y a à peu près 10 ans ou 5 ans qu'il fallait plus investir les fonds de pension, votre fonds de pension qui paiera votre retraite chez Arco, je sais pas quoi, l'Argirc Arco, ne pouvait plus investir dans les énergies fossiles. Donc, vous n'avez pas le droit d'acheter des Total, ou des Exxon, ou des sociétés pétrolières, non, c'était très mal. Donc, ils vous ont fait acheter des miroirs magiques et des moulins à vent, hein, c'est l'énergie renouvelable. Qui aujourd'hui sont tombés à zéro parce que c'est un désastre, ce truc-là. En Allemagne, l'Allemagne est en train de faire faillite à cause de ça. Et donc, j'avais dit aux gens, surtout, vous achetez pas ces saloperies-là, vous achetez des trucs Total, etc., ça me paraît très bien. Et donc, dans les marchés financiers, en refusant le moutonnisme, ça me permet de très bien gagner ma vie. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui pensent par eux-mêmes que quand vous pensez par vous-même, les marchés financiers, c'est pas aussi difficile qu'on le dit.
Tout à l'heure, je vous ai demandé si le futur, c'était l'Asie, mais il m'a dit non, c'est aujourd'hui et demain, c'est l'océan Indien.
C'est l'océan Indien, oui.
Pourquoi?
Pour une raison très simple, c'est que la croissance vient de deux choses. Hein. Vous avez une meilleure organisation du temps, du travail et des hommes, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle une croissance ricardienne. C'est-à-dire que si vous reliez l'Inde au Moyen-Orient, puis le Moyen-Orient à l'Afrique, et puis tout ça, ça vous allez créer des... Par exemple, si vous avez ici une ville, ici une autre ville, il faut une ligne de communication. Si vous mettez une troisième ville, il en faut trois. Si vous en mettez une quatrième, il en faut six. Si vous en mettez N, il faut N facteur de 1 moins 1 divisé par 2. Donc, dans les 40 dernières années, ce qui s'est mailloté, en quelque sorte, comme ça, ça a été l'Asie, la Chine, et avec tous les pays autour de la Chine. Ça, c'est fait. Mais maintenant, ça va avoir lieu en Inde. Et toutes les matières premières pour faire ça étaient très difficiles à obtenir. Mais maintenant, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les Russes ont ouvert des voies de transition verticales vers l'Inde. Donc, ils vont toutes les matières premières de l'Asie du Nord, de la Russie, vont descendre maintenant vers l'Inde et elles vont payer en monnaie locale indienne. C'est-à-dire que l'Inde ne va plus avoir de contraintes du commerce extérieur. Ce qui veut dire que le boom de l'Inde va être absolument inouï. Ça va entraîner le boom du Pakistan, le boom de tous ces pays-là. Et donc, toute cette zone va monter comme une fusée. Et, c'est tout à fait évident, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais vous pouvez avoir des tas de sociétés françaises. Vous prenez Schneider, vous prenez Air Liquide, qui bénéficieront au maximum de cette truc-là. Parce que c'est les meilleurs dans le petit électrique, c'est les meilleurs dans les gaz industriels. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter des valeurs en Inde. Vous achetez Air Liquide et Schneider. Et hop.
La France pourra bénéficier de ce boom.
Les sociétés françaises, pas la France.
Pas les Français.
Les Français qui travaillent en société, certainement, mais nous, on s'est débrouillés pour dire aux Russes qui sortaient des pieds, qui étaient des méchants. Et donc, du coup, on va plus avoir accès aux matières premières russes. Donc, en France aujourd'hui, on se retrouve en Allemagne avec le prix de l'énergie le plus élevé du monde, le système social le plus élevé du monde, le coût du travail le plus élevé du monde, un État qui est absolument aberrant, des réglementations imbéciles sur tous les problèmes économiques. La France va devenir un pays de bronze cul qu'on viendra visiter parce que ça a été un grand pays pendant un grand moment. Les gens viendront voir. Vous savez, j'étais toujours rigolant. J'étais jeune, j'allais en Asie et je me retrouvais avec des pousses-pousses qui vous traînaient derrière. Mais maintenant, il n'y a plus un pousse-pousse en Asie, il n'y a plus personne, il n'y a que des voitures, ça va être très belle d'ailleurs. Et vous venez à Paris devant la Tour Eiffel et vous avez des pousses-pousses où vous avez les Français qui pédalent et l'Asiatique derrière en train de regarder la Tour Eiffel, quoi. On s'appauvrit à une allure, mais vous vous rendez même pas compte. La rapidité avec laquelle on est en train de tomber.
Il faut aller en Asie pour s'en rendre compte?
Il faut suffire de sortir de France.
Est-ce que, aujourd'hui, le modèle de l'Union européenne, vous le comparez, à l'Union soviétique, est-ce qu'il y aurait une Europe? Est-ce que déjà, la gouvernance, elle doit se faire au niveau de la France? Est-ce qu'elle doit se faire au niveau de l'Europe aujourd'hui? Ou est-ce que ça doit être une autre Europe que celle qui est aujourd'hui?
Vous avez deux Europes, hein. L'Europe puissance, qui est le vieux truc de l'Empire romain, recréer l'Empire romain, ou qui était commandé du sommet. Il fallait obéir parce qu'on était des sujets. Et que c'est ça hante l'Europe depuis 20 siècles. Mais ça nous a amené à Charlemagne, à Charles Quint, à Louis XIV, à Napoléon, à Hitler. Ça se termine toujours dans le sang et dans les larmes parce que l'Europe n'est pas un pays, c'est une civilisation. Donc les pays se battaient pour le contrôle de cette Europe. Donc ça a toujours raté. Et c'est celle qu'on a choisie avec Delors et Trichet. Ça c'est. Et puis vous avez l'Europe du Moyen-Âge, qui était merveilleuse, vers 1250, le sommet de la civilisation du Moyen-Âge, qui était la liberté. C'est-à-dire que vous aviez des trucs qui se créaient, par exemple la Ligue hanséatique. Personne ne savait ce que c'était une alliance des grands ports, c'était une grande puissance, mais on ne sait toujours pas comment ça marchait. Le Saint-Empire romain germanique, qui était ni saint ni romain ni germanique, puisqu'il était en Sicile, mais c'était... Puis vous aviez le début des États-nations, avec la France et l'Angleterre, et puis vous aviez les villes-États, Venise, qui a dominé l'Europe pendant 10 siècles, Vienne, Bruges. Et donc, tout le monde faisait ses saisons dans son coin, et en 10 ans, on a trouvé un truc de l'État-nation démocratique. C'est comme ça qu'on est arrivé. Et donc, tout le monde faisait des expériences, et ce qui marchait, c'était importé chez les autres. Et ça a été une Europe qui a dominé le monde parce qu'elle était libre et diverse. Et à la fin, elle a dominé le monde comme jamais. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de nous ramener un truc où c'est Madame von der Leyen, qui est à la fois corrompue et incompétente, qui prend les décisions qui vont affecter les Français. Dans l'agriculture, par exemple. Mais réglementer l'agriculture française, comme disait De Gaulle, On peut pas réglementer un truc quand il y a 350 fromages. Ce qui faisait la beauté de l'agriculture française, c'est que elle changeait tous les 10 kilomètres. Forcer les gens à faire du blé, des betteraves, j'en sais rien. Il faut être bête comme un bruxellois pour le croire. Donc, partout, on remplace l'ordre par la liberté. L'ordre qu'on vous donne. Et que vous êtes obligé de suivre. Aujourd'hui, quand je parle à mes paysans dans le Gers, ils me disent, monsieur, moi, j'ai fait de l'agriculture parce que j'aimais pas être dans les, lire des livres et remplir des papiers. Les deux tiers de mon temps, je remplis des papiers pour des subventions à Bruxelles et on m'empêche de faire des trucs. Les paysans sont malheureux comme des chiens. Et ils crèvent la faim. Et c'est à cause de Bruxelles. Et tout le monde en crève. Donc il faut vite, vite mettre Madame van der Leyen en prison.
En prison, carrément?
Ben, elle a touché plus de 3 milliards de dollars et elle refuse de donner les papiers. Et son mari, elle a signé avec
Pfizer. Elle a touché 3 milliards de...
28 milliards de dollars de pour les vaccins de Pfizer. Et devinez où travaille son mari?
Chez Pfizer.
Eh ben oui. C'est stupéfiant. Et est-ce que vous avez eu accès au contrat, aux discussions? Combien ils ont touché? C'est l'objet de procès qui ont lieu en Belgique en ce moment. Mais d'ailleurs, Madame van der Leyen est l'objet de procès en Allemagne parce qu'elle avait aussi des problèmes de corruption quand elle était en Allemagne. C'est même pour ça qu'on l'avait envoyée à la Commission. Elle était ministre de la Défense. Donc, ce qui veut dire aussi que la justice dans tous nos pays est sous le contrôle de cette classe.
Parce qu'elle sera jamais condamnée, selon vous?
Si elle s'oppose, si elle se mettait à s'opposer, comme Monsieur Fillon l'a fait, là, vous êtes condamné à 15 jours. Mais si vous êtes bien dans le CERN, dans le genre, par exemple, Madame Lauvergeon, qui a ruiné l'industrie nucléaire française, qui avait acheté pour 4 milliards de dollars des gisements de, d'uranium au Niger qui n'existait pas, donc il n'y avait rien. Il n'y avait rien arrivé. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Tout le monde sait qu'elle a, son mari, Monsieur Frick, a touché le pognon. On n'en parle pas. Donc ça dépend selon vous serez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc, si vous faites partie des gens, vous serez pas tout, vous, si moi je fais partie, je suis liquidé en 5 minutes.
Il y a eu l'élection de Donald Trump. Il y a Elon Musk qui a acheté X et qui a encouragé cette élection et qui est très proche de Donald Trump. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que vous, bonne chose pour l'économie mondiale?
Là, j'ai écrit toute une série de papiers il y a 15 ou 20 ans. 10 ans, je sais plus. Dans lequel je disais que les débats politiques dans les années qui viennent n'allaient pas être entre la gauche et la droite, mais entre ce que j'appelais les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Les hommes des arbres, c'est ceux qui restent sous leur arbre, comme Brassens, en chantant, j'étais bien sous mon arbre. Puis les hommes des bateaux, c'est ceux qui coupent l'arbre pour faire un bateau, pour aller voir si c'est pas mieux là-bas. Donc c'était entre les globalistes et les dominés. La victoire de Trump, c'est la victoire des locaux. Et partout, vous reprenez le G7, vous savez, la réunion des politiques. L'année dernière, vous aviez Biden, vous aviez Trudeau, vous aviez Saruchi Sanak, un ancien de Goldman Sachs, vous aviez Madame Meloni, qui était la seule un peu différente. Aujourd'hui, sur les 5, 6, 7 qui étaient là, il y en a 5 qui sont déjà tombés. Dans les élections, ils ont pris des branlées phénoménales. Donc, où je vous rends compte, c'est que partout, les hommes des arbres vont reprendre le pouvoir et l'arracher aux hommes des bateaux qui les ont volés au coin du bois depuis 30 ans. C'est Davos. Il avait dit il y a 5 ans, à Davos, nous sommes au pouvoir partout. Tous les premiers ministres avaient été les amis d'Éric, Klaus Schwab, parce que tous les premiers ministres en Europe étaient d'anciens, vous savez qu'on appelait Young Friends of America, je crois.
Oui, j'ai plus le nom, mais c'était Young Leaders,
Young Leaders, ça avait été créé par Giscard, ça, quoi. Donc, on revient à la nation. Et c'est une très bonne nouvelle.
Et c'est une bonne nouvelle?
Parce que la démocratie ne peut exister que dans une nation. C'est ce que disait Jean-Paul II. Dans une nation, vous acceptez de perdre. Pour le bien de la nation. Dans l'Europe, je peux pas accepter que les Allemands, je suis d'une famille alsacienne, me donnent des ordres sous prétexte qu'ils sont plus nombreux. Ça vaut pas la tête. Je vais pas accepter les ordres d'un premier ministre européen qui me donnerait des ordres. Jamais. Jamais. J'ai rien en commun avec les Allemands. Ni avec les Italiens, ni, c'est pas que c'est mieux, je suis français, c'est ce que disait Jeanne d'Arc. On lui disait donc Dieu aime mieux les Français que les Anglais, quand on la pense en procès. Elle a dit non, c'est pas ça du tout. Dieu aime bien les Anglais en Angleterre et les Français en France.
Et est-ce que ça risque pas de nuire aux États-Unis, justement, le fait que Donald Trump, justement, ce conservatisme? Parce que Donald Trump risque mettre des droits de douane, il a annoncé qu'il allait mettre des droits de douane et que...
Oui, mais tout ça, c'est des paroles verbales. La réalité est différente, c'est que les États-Unis ont des problèmes budgétaires monstrueux. Ils ont 3 postes dans leur budget, vraiment importants. La sécurité sociale, la défense et le service de la dette. Aujourd'hui, le service de la dette est le deuxième et il va passer le premier d'ici très peu de temps. Donc, dans les 3-4 ans qui viennent, les États-Unis vont devoir choisir entre la sécurité sociale, le service de la dette ou la défense. Ils dépensent 1000 milliards de dollars par an dans la défense. Donc ils vont couper dans la défense. Parce qu'ils vont pas faire, ils peuvent pas faire baisser le service de la dette et ils peuvent pas toucher à la sécurité. Bon, mais s'ils touchent, où y a-t-il des choses à couper? En Europe. Donc, les Finlandais ont un problème beaucoup. Ils disent, dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Donc, l'armée européenne, depuis 1945, ça a été les États-Unis. Elle va s'en aller. Ils vont partir. Ils vont plus vouloir rester en Europe, ils en ont rien à foutre. Et donc, comme on n'a plus d'armée, qu'on n'a plus de jeunes, il va y avoir l'armée du pays d'à côté qui va venir en Europe. Il y a que deux pays d'à côté qui peuvent avoir une armée qui vient en Europe. La première, c'est la Turque. Et la deuxième, c'est la Russe. Donc, le choix des hommes politiques européens, pour les 50 qui viennent, savoir quelle armée du pays d'à côté choisit. Les Russes ou les Turcs?
On se crée une armée eux-mêmes.
Ils peuvent pas, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de pognon. On est ruinés. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, chaque quatre par grand-parent en Italie a un seul enfant. Vous imaginez qu'ils vont accepter qu'on le tue? On n'a pas, vous n'allez pas faire courir des avocats bruxellois de 65 ans, avec du vent plein de bière dans les montagnes. Ça va pas, non? Pour être une armée, il faut des jeunes. On n'en a pas. Ou alors, elle est soit arabe, soit turque. Vous rendez compte que la question essentielle pour l'Europe, c'est qui va être le pouvoir militaire dominant? Et c'est pour ça que ça se bagarre aujourd'hui entre la Turquie et la Russie.
Pour terminer, je voulais vous demander, en trois idées principales, ce serait quoi votre France idéale? L'idée serait de commencer la phrase en disant, ma France idéale, c'est...
Alors, la France idéale? Oui, c'est une bonne question, ça. C'est-à-dire, la civilisation qui domine le monde aujourd'hui, c'est la civilisation anglo-saxonne. Hein. Et j'ai toujours pensé que la France était une civilisation alternative qui a raté son coup à cause de la Révolution française, qui a détruit la France. Et ensuite, logiquement, le monde, si vous étiez arrivé en 1720, et vous avez posé cette question, vous avez dit, le monde dans les 100 ans qui viennent va être français. Parce qu'on était tellement dominant dans tous les domaines. Et puis, ça a été les Anglais. Donc, c'est l'endroit où on a vraiment raté le virage pour devenir le pays. Donc, pour moi, la France idéale serait un pays où les hommes et les femmes recommencent à bien s'aimer. Parce que le caractéristique de la civilisation française, tous les gens qui sont venus nous voir depuis 10 siècles, c'est que les hommes et les femmes s'aimaient bien en France et qu'on était à peu près le seul pays au monde où ça se passait. Vous alliez dîner à Dublin ou à Londres et vous aviez des tables d'hommes et des tables de femmes le soir, ce qui se passait jamais en France. Le placement français, c'était un homme, une femme, un homme, une femme. On forçait les gens à vivre ensemble et finalement, comme disait... Je sais plus quel humoriste. Il disait, Dieu n'a pas donné le sens de l'humour aux femmes pour qu'elles aiment les hommes au lieu d'en rire. Donc, c'était un truc que j'aime beaucoup. Donc, c'était un pays où les gens s'aimaient. Et c'était rigolo. Ça me faisait qu'un pays gay, un pays. Donc, je voudrais simplement que les hommes et les femmes en France réacceptent qu'ils sont différents, qu'ils essaient pas d'être pareils et qu'ils se remettent à s'aimer à la place de détester. C'est bon, la seule chose que je voudrais, c'est que la France redevienne, allez, le pays de l'amour courtois.
Merci.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée en entier. D'ici là, portez-vous bien. Salut.